BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Guillaume Bolt.
Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez comme tous les soirs bien sûr dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, c'est toute l'Europe spatiale qui brûle un cierge parce que si tout va bien, et bien dans 3 heures aux alentours de 21h, Ariane 6 devrait faire son premier vol du côté de Kourou en Guyane. Vous savez que l'Europe est privée d'accès autonome à l'espace depuis déjà un an. Jean-Baptiste Huet est à Kourou, on va le retrouver bien sûr dans un instant sur BFM Business. Sinon on a ces chiffres de l'INSEE qui sont tombés il y a une heure qui nous disent qu'en tout cas avant l'annonce de la dissolution, l'économie française allait bien. Ça allait bien fondamentalement, on verra ça avec Thomas Asportas dans un instant. Après tout ce qui peut se passer au-delà, c'est évidemment une autre histoire. Avec ça, avec nos experts, on parlera de tout ça bien sûr à 18h30. Avec eux, on parlera aussi de ce sommet de l'OTAN qui vient de débuter du côté de Washington. Donald Trump n'y est pas, mais tout le monde pense très fort à lui. On se demande si l'OTAN sera exactement la même avec ou sans lui, selon qu'il repasse évidemment en novembre prochain. Voilà le programme non exhaustif, 18h15. C'est la directrice générale d'Orange, Christelle Edman, qui sera l'invitée d'Edwige Chevrillon. Voilà le programme, nous sommes partis. Bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc si tout va bien, c'est dans 3 heures qu'Ariane 6 devrait débuter de Kourou son tout premier vol, l'aboutissement de 10 ans de travail pour ce projet. Jean-Baptiste Huet est sur place pour BFM Business.
On est ici en Guyane, à Kourou, au Centre Spatial Guyanais, dans la salle Jupiter. C'est ici que toutes les opérations de contrôle du lanceur vont s'effectuer ce soir. Pour l'instant, tout va bien, tous les paramètres sont au vert, comme disent les professionnels. Il y a eu aussi un petit problème technique d'un capteur, mais ça a été vite résolu. Ce qu'on surveille avec beaucoup d'attention, c'est la météo. Cette période du juillet est en fait la pire pour envoyer des fusées. On a souvent en altitude des vents cisaillants qui peuvent venir modifier la trajectoire du lanceur, et puis ils peuvent se former des orages assez rapidement, donc tout ça est surveillé très attentivement. Il y avait une opération critique qui a été effectuée, c'est le remplissage des réservoirs. Il a fallu remplir les réservoirs de la fusée avec de l'oxygène liquide et de l'hydrogène liquide. L'oxygène liquide, c'est à moins 150 degrés, l'hydrogène liquide, c'est à moins 250 degrés. Donc ce sont des opérations qui sont critiques, extrêmement tendues. Tout s'est bien déroulé, tout s'est bien passé. La fusée attend maintenant sagement sur son pas de tir. À propos de cette fusée, cette Ariane 6, c'est une version 2 booster. Elle est équipée de 2 propulseurs. Il faut savoir justement que dans quelques mois, il y aura un autre lancement qualificatif pour la version avec 4 propulseurs. On en reparlera. Avant, il faut déjà que celle-ci décolle. Et je peux vous dire sur place que les équipes du Centre National d'Études Spatiales, de l'Agence Spatiale Européenne, les industriels, Ariane Group, Ariane Espace, sont sur les dents. Pas d'autre mot. Il faut que ça réussisse à tout prix. Un échec serait évidemment un signal catastrophique pour l'Europe de spatiale, hein, l'Europe spatiale évidemment. Et puis aussi une catastrophe industrielle. Mais tout va bien se passer. Pour l'instant, tout est au vert.
Et ben, on croise les droits. Jean-Baptiste Huet, donc, à Kourou pour BFM Business. On parlera de tout ça à 18h30 avec Frédéric Simotel. Les enjeux, bien sûr, l'enjeu de souveraineté que constitue l'accès autonome à l'espace. Et puis, on suivra évidemment ce lancement aux alentours de 21h en direct sur BFM Business. Bien sûr, dans Tech & Co. Dans l'actualité, grande question, comme toujours. Comment ça va du côté de l'économie française? Bonsoir, Thomas.
Bonsoir, Guillaume.
Là, on a l'INSEE qui vient de publier sa dernière note de conjoncture qui nous dit que globalement, alors jusqu'à l'annonce de la dissolution, oui, ça allait bien. Pour ce qui est de la suite, évidemment, c'est une question sans réponse, Thomas. Hein.
Oui, non, ils n'ont pas de boule de cristal à l'INSEE. En revanche, ils peuvent nous dire comment se comportait l'économie française jusqu'à l'annonce de la dissolution. Ils ont sondé, activé leur capteur de l'économie française au mois de mai et au mois de juin. Et ce qu'on voit globalement, c'est que tous les indicateurs sont au vert. La croissance se maintient, l'inflation recule, les ménages regagnent du pouvoir d'achat et consomment davantage, et le chômage se stabilise. Donc la photo est plutôt bonne. Si on regarde la croissance plus précisément, l'INSEE tape sur 1,1% cette année, c'est-à-dire exactement le même taux de croissance que l'an dernier, et même un petit peu plus que les 1% envisagés par Bercy dans le budget. L'INSEE prévoit notamment un troisième trimestre à 0,5% grâce au JO, qui apporterait à eux seuls 0,3 points de croissance. Ce serait ça l'effet JO, 0,3 points de PIB, essentiellement grâce à la vente des billets et des droits audiovisuels. Bonne nouvelle sur la croissance, bonne nouvelle aussi sur l'inflation, qui repasserait sous les 2% d'ici à la fin de l'année. Donc on aurait des salaires qui augmenteraient plus que les prix. Ouais. Donc du pouvoir d'achat qui augmenterait de 1,4%. On n'a plus vu ça depuis un certain temps. Et du coup, une consommation qui repartirait, là aussi on n'a plus vu ça, de 1,3%. Et enfin, bonne nouvelle pour l'emploi qui se tient avec encore 185 000 créations d'emplois cette année. C'est beaucoup moins qu'en 2021-2022 post-Covid, mais c'est suffisant pour stabiliser le taux de chômage autour des 7,5%. Ouais. Aujourd'hui, on est à 7,5, on serait à 7,6 en fin d'année.
Bon, donc ça, c'était la photo juste avant la dissolution. Alors, chiffre qu'a commenté Bruno Le Maire, qui a saisi l'occasion.
Bien sûr.
Pour dire, ben voyez, tout ça, ça valide la politique qu'on mène depuis 7 ans, finalement.
Ben oui, pour le ministre de l'économie, ces chiffres démontrent que sa politique est la bonne, la meilleure possible pour le pays, de la croissance, du pouvoir d'achat et de la création d'emplois. Et il implore donc les futurs responsables, quels qu'ils soient au gouvernement ou à l'Assemblée, de ne pas détruire cette politique. Je le cite, « Revenir en arrière sur la politique de l'offre et la remplacer par une politique de la demande serait une faute irrémédiable. » Mais il est bien conscient aussi qu'il faudra faire des ouvertures à d'autres partis, trouver des compromis. Et Bruno Le Maire donne deux exemples pour améliorer, c'est le mot qu'il emploie, améliorer la politique de l'offre vers plus de justice fiscale. Un, continuer à augmenter la participation et l'actionnariat salarié pour intéresser davantage tout le monde, tous les salariés à la performance de l'entreprise. Et deux, réduire l'écart entre le salaire brut et le salaire net avec une refonte des allègements de charges et un lissage plus progressif.
Voilà donc la photo de l'INSEE qui nous dit jusqu'au 9 juin, en tout cas, tout allait bien. Pour l'instant, tout va bien, finalement.
Ouais.
Et on verra effectivement ce qu'il en sera d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, Thomas. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Pendant ce temps, en France, toujours, les discussions continuent, justement, du côté du nouveau Front Populaire pour désigner son éventuel candidat pour Matignon, pour remplacer Gabriel Attal. Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, s'est dit, lui, tout à l'heure, prêt à assumer la fonction, à condition, dit-il, que cela se fasse dans le dialogue avec le nouveau Front Populaire. Fin de citation. 18h05, c'est le grand rendez-vous international des prochaines heures. Le sommet de l'OTAN débute aujourd'hui à Washington. Les 32 membres vont beaucoup parler de l'Ukraine. Avec une question de taille, qu'en restera-t-il si Trump repasse à l'automne prochain? L'Amérique, d'ailleurs, sera-t-elle aussi atlantiste? Alexandra Paget.
40 milliards de dollars, c'est le montant minimum de l'enveloppe que le précédent secrétaire général de l'OTAN a proposé aux États membres de consacrer au soutien de l'Ukraine chaque année. Une déclaration en ce sens est attendue à Washington, mais Kiev risque de ne recevoir qu'une garantie pour 2025. Pour les années suivantes, rien n'est moins sûr. Le prochain rassemblement de l'Alliance se tiendra aux Pays-Bas en juin l'année prochaine, après l'élection présidentielle américaine de novembre. Et celle-ci pourrait être remportée par Donald Trump, qui entretient le flou sur la continuité du soutien américain à l'Ukraine et même sur le rôle des États-Unis dans l'OTAN. Longtemps premier contributeur direct de l'Alliance, il participe aujourd'hui seulement à hauteur de 16,2% au budget commun, c'est-à-dire autant que l'Allemagne. Mais le candidat républicain à la Maison-Blanche n'en démord pas et évoque régulièrement une sortie véritable ou non de l'OTAN et donc la fin du parapluie américain, notamment pour les pays les plus vulnérables de l'Est, dont l'Ukraine.
L'ombre de Trump qui plane sur ce sommet de l'OTAN qui commence aujourd'hui à Washington. Notez qu'au passage, on va désigner le prochain secrétaire général de l'organisation à cette occasion. Ça sera Mark Rutte, l'ancien Premier ministre des Pays-Bas. Il prendra ses fonctions le 1er octobre prochain. Puis on vient en France. Alors cette fois, ça se précise, mais vraiment, le père de Flamanville est bel et bien sur le point. Alors pas de démarrer, mais déjà commencer à produire de la chaleur. C'est déjà ça. C'est une question de jours ou de semaines, nous a dit aujourd'hui EDF. EDF qui a ouvert ses portes justement à la presse aujourd'hui de cette pharaonique installation. Gaëtane Mélin était sur place, elle nous raconte. Gaëtane Mélin, qu'on va retrouver depuis Flamanville, va-t-on me dire oui ou non ? Est-ce qu'on peut écouter Gaëtan ?
La centrale nucléaire de Flamanville n'aura jamais été aussi proche du démarrage de son EPR. C'est la divergence, c'est-à-dire que c'est la réaction nucléaire qui permettra la production de chaleur. Cette opération interviendra dans les toutes prochaines semaines. Ensuite, eh bien, il faudra encore attendre plusieurs semaines pour que les premiers mégawatts arrivent sur le réseau électrique français. Ce sera alors le couplage. En attendant, les essais, les tests, les contrôles se poursuivent. Après tout, il aura fallu attendre 12 ans pour sa mise en service, alors quelques semaines de plus, cela apparaît tout à fait supportable.
C'est pas faux. Gaëtane Mélin, donc, à Flamanville pour BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, groupe leur social en vue chez Dyson, le spécialiste de l'électroménager annonce qu'il pourrait licencier 1 millier de personnes au Royaume-Uni sur 3500 personnes basées sur place. Le groupe se restructure depuis des années pour répondre à la demande qui se déplace de plus en plus vers l'Asie. D'ailleurs, on se souvient qu'en 2019, il avait déjà déménagé son siège social du UK vers Singapour. Et puis, on revient à Paris. La décision était attendue. Finalement, on devrait voir des taxis volants au sud de Paris cet été pour les JO. Ça va démarrer doucement, mais comme on dit, il pourrait y avoir un marché. François-Xavier Roux nous raconte ça.
Les taxis volants, un marché qui pourrait peser 32 milliards d'euros dans une dizaine d'années. À ce moment-là, 40 à 60 000 de ces engins pourraient voler au-dessus de nos têtes dans une centaine de métropoles. Pour les constructeurs, une révolution comparable au développement de l'automobile des années 20. Et les investissements ne cessent de se multiplier. La semaine dernière encore, c'est Stellantis qui a investi 55 millions de dollars dans Archer Aviation, entreprise californienne qui a pour ambition de construire 650 taxis volants chaque année dès 2025. Très avancée sur cette technologie, la Chine avait réalisé, elle, dès le début de l'année, le premier vol interurbain au monde grâce à la start-up Autoflight. Un trajet en 20 minutes à peine entre Shenzhen et Zhuhai, dans la région de Hong Kong, contre plus de 3 heures en voiture. La promesse de ces entreprises, donc, rendre du temps aux usagers grâce à une vie sans bouchons, en investissant massivement les derniers kilomètres en ville. L'expérimentation parisienne, portée par l'entreprise allemande Volocopter en partenariat avec Aéroports de Paris, devrait, elle, permettre de rallier le Bourget au cœur de Paris grâce à une station flottante installée au niveau du quai d'Austerlitz en moins de 20 minutes.
Voilà, donc pas de panique si vous les voyez passer au-dessus de la capitale au cours des prochaines semaines. François-Xavier Roux avec nous sur BFM Business, 18h09. On va sur les marchés.
Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
Les marchés, Étienne Brack, bonsoir. Euronext à la Défense pour bonsoir. BFM Business. Comment ça s'est passé ce mardi, mon cher Étienne?
C'est pas très joli, hein. Vous avez un CAC 40 qui perd 1,5% après une baisse de 0,6% hier, comme hier, à partir de 14h30. Et les Américains qui se réveillent, vous avez les marchés européens qui dévissent. Figurez-vous que vous avez un CAC 40 qui est sur des plus bas d'une semaine, à 7508 points. Et c'est même la plus forte baisse pour le CAC 40 en quasiment 3 semaines, avec des Américains qui regardent un petit peu ce qui se passe en Europe, qui ne comprennent pas grand-chose à la politique française. Ils se demandent si c'est l'extrême gauche qui va venir au pouvoir en France, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc, dans le doute, ils vendent l'Europe et ils continuent d'acheter les États-Unis. Le Nasdaq, le S&P 500 sont tout simplement sur des niveaux records ce soir. Ajouté à ces incertitudes politiques, des incertitudes sur les entreprises, rendez-vous compte, Verallia perd aujourd'hui 18% après avoir revu à la baisse ses perspectives. Dassault Systèmes, moins 5% après avoir là aussi revu très légèrement ses prévisions pour cette année. BP du côté de Londres, géant britannique quand même, pétrolier, qui revoit à la baisse ses marges de raffinage. Le titre cède 4% à Londres, ça s'ajoute à Airbus. Souvenez-vous qu'il avait perdu 9% en quelques jours après avoir revu ses objectifs, ou encore souvenez-vous aussi des profit warnings du côté de Air France, Alstom ou encore Pluxee et L'Oréal. Donc dans le doute, le marché vend le CAC 40. Beaucoup de prudence, des volumes d'échanges qui manquent une nouvelle fois à l'appel, et un CAC 40 qui essaye tant bien que mal de se tenir aux 7500 points. 7508 points ce soir au fixing. Néanmoins, toujours pas de stress sur l'obligataire et l'euro qui tient les 1,08. Ce sont les seules bonnes nouvelles que j'ai à vous apporter ce soir, mon cher Guillaume.
Oui, enfin globalement, quand vous dites, c'est quand même pas très joli. Hein. Merci beaucoup Étienne, en tout cas. Merci quand même Étienne Brack, donc depuis Euronext à la Défense pour BFM Business. On va aller voir du côté de Wall Street si c'est un petit peu plus joli. Pas tellement. Le Dow Jones là qui est à l'arrêt, quasiment stable, 39 312 points, et puis l'indice Nasdaq de son côté qui fait un petit peu mieux, allez, plus 0,25%, 18 448 points. On est à la mi-séance, bien sûr. 18h12, à suivre l'invité d'Eddie Chevrillon, Christelle Edman, la directrice générale d'Orange, interview réalisée le week-end dernier pendant les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. C'est dans un instant, à tout de suite.
BFM Business présente Eddie Chevrillon, la grande interview.
Bonjour à tous, nous sommes ici à Aix-en-Provence dans le cadre des rencontres économiques. Beaucoup de questions à poser à mon invité, c'est Christelle Edman, la directrice générale d'Orange. Bonjour Christelle Edman.
Bonjour Edwige.
Merci d'être là, je sais que pour vous c'est toujours ici des timings très très serrés. Première question forcément, le climat ambiant, climat assez lourd sur le plan économique mais surtout politique, quel impact ça a sur vous, sur... Et puis en interne aussi, comment faites-vous pour gérer ce climat politique ?
Alors, c'est vrai qu'on a une situation très particulière en France, mais pour être honnête, en fait, ça a très peu d'impact au sein d'Orange. Les collaborateurs, finalement, quand on est dans l'entreprise, on se lève tous les matins pour servir nos clients, nos millions de clients. Et donc, ça, évidemment, y a des discussions à la cantine, il y a des discussions après le travail. Mais honnêtement, dans les boutiques et nos techniciens, ils font leur travail et finalement, peu de choses à changer.
Et dans les boutiques, les clients sont là ?
Ah oui, absolument. Honnêtement, il n'y a pas d'impact. Nos clients sont très exigeants, évidemment très impatients que nos réseaux fonctionnent. Rien n'a changé depuis la dissolution.
On a vu que le climat est assez violent. Est-ce que vous avez comment faites-vous pour éviter tout dérapage raciste, antisémite, tu veux dire, ça peut aussi bien se dérouler dans une entreprise de la taille d'Orange ?
Au sein d'un groupe comme Orange, effectivement, on travaille beaucoup sur à la fois valoriser la diversité, puisque on opère dans 25 pays et on a évidemment des collaborateurs qui viennent d'horizons très différents. Mais au fond, ce qui rassemble tout le monde, c'est notre mission, c'est la mission, c'est notre métier, c'est la fierté du métier qu'on fait. Et puis, au fond, nos clients, une fois de plus, c'est quand même notre boussole.
Alors, Chris Hellemann, vous n'êtes pas prêt de prendre vos vacances, en l'occurrence, parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, et vous êtes, je crois que c'est la première fois que ça arrive dans le cadre des Jeux Olympiques, vous êtes le seul opérateur. Je crois qu'à Tokyo, il y en avait 5. Là, vous êtes le seul opérateur. Difficile de faire des tests en grandeur. Je ne trouve pas l'expression, mais vous voyez ce que je veux dire, en grandeur nature, voilà. Comment est-ce que vous êtes laissé le grand stress ? Comment vous préparez à tout ça ?
Alors, c'est vrai que c'est la première fois et en fait, ça reflète aussi la largeur du spectre d'activité du groupe Orange. On a l'habitude d'accompagner les grands événements sportifs. On accompagne en ce moment le Tour de France. Mais c'est vrai qu'on a un spectre très large et vous l'avez dit, Tokyo 5 opérateurs, les Jeux Olympiques, on est seul. Alors, on travaille déjà depuis très longtemps. D'abord, on a 1000 collaborateurs engagés. On se prépare, on accompagne. Et puis, évidemment, notre enjeu, c'est d'accompagner, de préparer les sites olympiques puisque notre métier, ça va être de s'assurer que les chronomètres, les sportifs, les arbitres, les médias, les photographes, tout ça soit connecté pour qu'on capte les images, qu'on capte les données et qu'on les diffuse, bien sûr, aux millions de spectateurs, mais surtout aux milliards de téléspectateurs.
Justement, ça fait un volume qui augmente de combien ? Je ne sais pas comment on peut dire ça.
Alors, ce n'est pas comme ça qu'on le mesure. On a l'habitude, les grands stades de foot, les grands événements sportifs, on était partenaire de la Coupe du Monde de rugby, mais c'est vrai que là, c'est 32 Coupes du Monde en même temps, sur un temps très dense. Et puis, c'est vrai que cette cérémonie d'ouverture qu'on a baptisée en interne l'Everest des télécoms, parce que 6 km de long, 120 bateaux. On va utiliser en plus des technologies, on va utiliser de la 5G privée, on aura des petites caméras 5G sur les bateaux pour capter des images. Donc c'est vrai que c'est un énorme challenge, mais en même temps c'est une énorme fierté pour nous, pour nos collaborateurs, de mettre en avant les savoir-faire d'un groupe comme Orange.
Aujourd'hui, vous dites nous sommes prêts ou pas encore complètement, parce que, encore une fois, il n'y a pas eu de test grandeur nature.
Alors, chaque jour entre maintenant et la cérémonie d'ouverture compte parce que certaines des préparations qu'on doit faire se feront dans les derniers moments parce que les sites ne sont pas complètement encore accessibles. Donc, on n'est pas complètement prêt, mais on sera prêt le jour J. Et puis, on a déjà eu beaucoup de répétitions. Et alors, on travaille évidemment avec l'ensemble des partenaires des Jeux, avec le COJO et toutes les organisations.
Alors, il y a quand même aussi beaucoup d'actualités business pour vous, forcément, même si vous êtes en quiet period en ce moment, même ça ouvre en ce moment. Est-ce que pour vous, ce qui se passe en Espagne, qui est quand même l'événement marquant dans votre actualité, donc le rapprochement entre MassMobile et Orange pour faire donner naissance au leader espagnol, alors sous des contraintes concurrentielles très fortes, pour vous, c'est un événement marquant pour Orange, mais aussi pour le secteur des télécoms.
C'est vrai que le marché espagnol est très concurrentiel et reste très concurrentiel. La fusion entre MassMobile et Orange, donc on a créé MassOrange le 1er avril. Les équipes sont intégrées et donc on doit délivrer les synergies. Équipes sont intégrées, il y a une équipe de management. Alors on travaille sur beaucoup de programmes qu'on avait eu le temps de préparer puisqu'on a 2 ans de négociations avant le closing de cette opération. Mais dans un marché qui reste très compétitif avec des prix d'entrée, des marques low cost très agressives et effectivement aussi des marques. Donc on a un certain nombre de marques, mais c'est un projet important.
Quel impact ça a déjà eu à votre avis sur le marché espagnol ?
Aujourd'hui, c'est trop tôt pour le voir, mais nous, on sait que les vraies synergies, elles sont opérationnelles, puisqu'on vient migrer des clients sur notre réseau. On est dans un métier de coût fixe. Quand vous absorbez plus de clients sur un réseau, vous créez des synergies, c'est mécanique.
Et le montant des synergies, il est combien ?
Donc nous, on a chiffré 490 millions d'euros de synergies annuelles à partir de l'année 4 post-closing.
Oui, d'accord. Donc ça a commencé.
Donc on commence, ouais, évidemment, avec une montée en puissance sur les 4 prochaines années.
C'est intéressant de regarder ce qui s'est passé sur le marché espagnol. Est-ce que, la question classique, hein, est-ce que ça peut se passer en Europe et surtout, est-ce que ça peut se passer en France ? Si je vous pose la question, c'est qu'on a vu que ça y est, c'est le retour de la guerre des prix. Alors c'est surtout Free et CFR qui lancent cette guerre des prix. Mais cette guerre des prix, elle montre bien que l'exercice devient compliqué pour les opérateurs en France, parce qu'il y a très peu de relais de croissance. Bon, il y a eu la fibre, il y a eu la 5G, tout ça, on a expliqué que c'était le nouvel Eldorado pour les opérateurs télécoms. Ça n'a pas vraiment été le cas. Mais donc, pour vous, vous êtes dans une situation qui devient compliquée sur le marché français.
Bah, tous les marchés sont spécifiques. Le marché français, il n'a jamais cessé d'être concurrentiel. Vous avez des prix d'entrée qui sont très agressifs. Alors évidemment, tout notre enjeu, on a plusieurs marques, on doit pouvoir permettre à un client de trouver l'offre qui correspond à ses besoins et on a des prix d'appel qui sont effectivement très attractifs.
Oui, alors, un peu plus élevé que les autres.
Ça dépend, ouais, parce que nous, évidemment, sur le mobile, en tout cas, on a un meilleur réseau, mais on a des prix et finalement, souvent, on a cette image qu'Orange est plus cher que les autres, mais ce n'est pas vrai. Et en fait, si vous regardez, hein, et en ce moment, on a beaucoup de promotions ou d'offres. Mais une fois de plus, oui, on est dans un marché très difficile. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a moins de croissance. On n'est plus dans une époque où les Français s'équipaient de téléphones portables. On voit plutôt reculer l'âge du premier portable. Mmh. Et donc, c'est vrai que dans un marché à 4 acteurs, c'est très difficile de créer de la croissance. Donc nous, la croissance, on la crée quand même, à la fois évidemment en volume, mais surtout en valeur. Vous savez qu'on a lancé des nouvelles offres, en particulier sur la protection, la cybersécurité pour les particuliers. Oui. Donc on est dans l'innovation, aller apporter évidemment la fibre, la 5G et des relais de croissance.
Les relais de croissance, c'est plus tellement sur la téléphonie en tant que telle, parce que même vous avez perdu des clients, je crois, sur les deux derniers trimestres, non ?
Alors, on a toujours de la croissance dans notre cœur de métier, parce que effectivement, nos ARPU, donc c'est le revenu moyen par client, continue d'augmenter, mais effectivement, c'est la croissance en volume, c'est-à-dire que quand dans un marché mobile, et c'est le cas au premier trimestre, hein, il y a eu, c'est l'ARCEP, hein, le régulateur qui le dit, oui, le 31 mars 2024, il y avait moins d'abonnements mobiles en France qu'il n'y en avait le 1er janvier. Donc dans un marché qui est sous pression, forcément, ça crée de la pression pour l'ensemble des acteurs. Et je le rappelle, c'est aussi parce qu'on continue à investir massivement dans nos réseaux.
Oui, mais donc pour vous, le relais de croissance, alors peut-être pas à court terme, mais à moyen et long terme, il est où ?
Alors nous, les relais de croissance, on les connaît. Alors bien sûr, on est convaincu que les infrastructures, la fibre, la 5G, on déploie nos réseaux et ça a de la valeur. Aujourd'hui, hein, même si pendant les JO, on offre à l'ensemble de nos clients la 5G, même s'ils sont clients que 4G, on voit qu'il y a quand même de la valeur. Et puis, les relais de croissance, on l'a dit, la sécurité, la cybersécurité. On va parler beaucoup d'IA. On en parle beaucoup déjà aujourd'hui. C'est pas encore, l'IA n'est pas encore sur des usages grand public, mais il y a énormément d'innovation. Et donc, nous, on se pose vraiment la question de dire qu'est-ce que ce sera qu'être un opérateur à la pointe sur les enjeux d'IA. On a beaucoup de sujets.
Merci de poser la question. Mais est-ce que je peux avoir la réponse ? C'est pas moi qui vais la donner, ça va être vous.
Mais en fait, on n'a pas encore. D'abord, on est dans une matière vivante sur laquelle il y a. L'innovation va très, très vite. Mais on voit bien que si demain vous avez de la traduction en ligne sur votre portable, si vous avez un assistant personnel, en fait les attentes des consommateurs quand on va utiliser de l'IA, ça va être du vrai temps réel, c'est-à-dire de la latence qui va être beaucoup plus basse que ce qu'on a pris l'habitude d'avoir dans un monde internet où finalement on va sur les réseaux. Et donc ça va être l'occasion d'utiliser la 5G avec toute la puissance de feu de la 5G. Donc enfin on aura quelque part cette killer app pour la 5G et on pense que l'IA sera une vraie révolution.
En termes d'investissement, pour vous, l'IA, ça représente quoi chez Orange ?
Aujourd'hui, on utilise déjà l'IA depuis des années. Alors, oui, on parle beaucoup de Gen AI, mais c'est peu par rapport à ce qu'on investit. Aujourd'hui, on investit plus de 6 milliards par an dans nos réseaux. Nos systèmes, l'IT et tout ce qu'on met dans l'IA, c'est des petits montants. Les vrais investissements dans l'IA, ils sont sur les compétences. On parle beaucoup de cybersécurité, les bases de données. Au fond, la valeur dans l'IA, c'est pas l'IA, c'est les données. Et les données qu'on a construites depuis 10 ans dans la cybersécurité, les millions d'attaques qu'on analyse tous les mois, c'est ça qu'on va utiliser derrière pour créer finalement des applications qui seront utiles.
Donc ça veut dire que ce qu'on a, là je parle d'un point de vue consommateur, ce qu'on a dans notre téléphone, ça va évoluer d'une manière considérable, mais quand ?
Alors c'est très parce difficile.
J'ai déjà l'IA dans mon téléphone.
Il y a déjà beaucoup d'IA dans le téléphone si vous utilisez plein d'applications qui embarquent de l'IA. Mais on voit que ce soit les grands acteurs de la tech, il y a beaucoup d'innovations dans les tuyaux qui ne sont pas encore généralisées. Vous regardez, OpenAI a lancé GPT-4o. Oui. Si aujourd'hui, d'ailleurs quand ils ont fait le lancement, vous remarquerez que la petite vidéo, c'était un iPhone qui était branché par un fil pour la qualité de la connectivité. Donc on voit bien que l'IA, quand on va utiliser de la vidéo, de l'interaction en temps réel, ça va fondamentalement changer la façon dont on va devoir utiliser les réseaux. En tout cas, nous, on s'y prépare et on travaille avec tous les grands acteurs de la tech pour préparer ces innovations qui n'arriveront peut-être pas dans 3 mois, mais elles vont venir et c'est une vague très profonde et très solide.
Oui, mais quand je parlais d'investissement, c'est-à-dire que on voit bien, là, on a vu que par exemple en France, Internet, il y a 16%, c'est la plateforme, c'est Netflix. Donc là, avec l'évolution des usages, ça va avoir un impact considérable sur la capacité que vous avez dans vos téléphones et la capacité que vous avez Orange, si je suis chez Orange.
Alors, en fait, quand on est... Il faut regarder deux choses différentes. Les réseaux fibres, c'est un potentiel infini d'utilisation de trafic. Et donc, il y a même des innovations qui vont pouvoir les mettre à niveau. Donc on a vraiment un réservoir de croissance qui est considérable et c'est d'ailleurs une des forces du groupe Orange puisqu'on est l'opérateur qui a le plus investi dans la fibre en Europe. Dans les réseaux mobiles, c'est très différent parce qu'effectivement, dans les réseaux mobiles, il y a une ressource rare qui s'appelle le spectre, qui est c'est physique. Et donc malheureusement, c'est sur les réseaux mobiles où on va devoir être très pointilleux et très intelligent dans la façon dont on va utiliser ces réseaux. Et c'est là où la 5G jouera tout son rôle.
Je reviens un instant sur la consolidation. Il y a beaucoup d'interrogations autour d'ECFR, donc qui appartient au groupe Altice. Pour vous, est-ce qu'il y aura forcément une consolidation? Et le danger n'est pas que, par exemple, ECFR se fasse un peu comme sa petite sœur au Portugal, rachetée par un Saoudien, un opérateur étranger, par STC, par exemple.
Alors,
l'arrivée d'un étranger, ça peut faire peur, non, aux opérateurs français?
Je vais vous dire, la France, c'est un pays très particulier.
Bah, oui.
Parce qu'en France, on a effectivement 3 concurrents qui sont des concurrents français. Ouais. C'est pas du tout ce qu'on observe dans le reste des pays européens. On a des acteurs mondiaux qui sont présents en Espagne, Telefonica ou Vodafone qui vient d'en sortir, mais c'est des acteurs européens. Donc en fait, c'est la France qui est très particulière.
Alors, donc ça va arriver, c'est ça que vous ne...
Je ne sais pas, parce que d'abord, il faut poser la question à Altice, bien sûr. Mais après, c'est pas évident, parce que dans un marché à 4... qui est moins en croissance que par le passé, c'est pas évident. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, d'abord c'est pas Orange qui peut être l'acteur de la consolidation. Donc de toute façon, il faut poser la question aux autres acteurs.
Bien sûr, mais en même temps, ça vous concerne.
Bien sûr, bien sûr, ça nous concerne. Mais on voit bien que c'est pas facile, d'abord pour un opérateur étranger, de créer de la valeur quand il rachète un opérateur dans un pays.
Hier, j'ai animé une table ronde avec Enrico Letta, l'ancien Premier ministre italien, qui a fait un rapport très intéressant, je dirais un peu fondateur, si ce n'est que tout change. Donc on ne sait pas très bien si ça va être dans un placard ou si au contraire, ça va être la feuille de route de la nouvelle Commission et du nouveau Parlement sur comment faire évoluer le marché intérieur. Il a sélectionné des points clés, évidemment les télécoms. Est-ce que pour vous, ça veut dire quand même que les mentalités au niveau européen sont en train ou ont déjà évolué ?
Alors c'est vrai que d'abord on soutient totalement l'analyse d'Enrico Letta dans son rapport. Il y a un rapport qui avait été sorti par la Commission aussi sur l'état des télécoms. Et au fond, la question qu'on doit se poser, c'est pas de regarder le passé, etc. C'est de se dire de quoi a-t-on besoin pour construire les infrastructures numériques dont on aura besoin en 2030. Et aujourd'hui, on est dans un marché des télécoms fragmenté, mais qui se fragmente de plus en plus chaque jour. Non pas, alors il y a une réalité, quand on a 27 États membres, 27 régulations, c'est 27 marchés, on n'a pas la taille critique de la Chine ou des États-Unis. Mais c'est vrai aussi que même au sein de ces marchés, on a des opérateurs télécoms européens qui sont endettés et qui continuent de vendre leur infrastructure pour pouvoir continuer à investir dans la 5G ou dans la fibre. Et donc c'est en soi la question de la résilience et de qui sera le propriétaire demain des infrastructures numériques en Europe qu'on doit se poser.
Christelle Elma, ça fait combien de mois que vous êtes à la tête d'Orange?
Oh, ça fait un peu plus de 2 ans, donc je compte plus en mois.
Ah, d'accord, non, mais effectivement, je vous posais la question, savoir si vous comptiez encore en mois ou pas. Parce que vous avez opéré un recentrage, donc vous avez vendu OCS, vous avez vendu Orange Bank. Est-ce que vous estimez que vous êtes à jour dans votre feuille de route, dans votre plan stratégique? Et qu'est-ce qui vous reste à faire d'urgent?
Alors, on publie nos résultats dans quelques semaines et donc on fera à cette occasion un peu un bilan puisqu'on est à mi-parcours hein, du plan stratégique. Oui. On a déjà effectivement atteint beaucoup de nos objectifs. Hein, donc effectivement, il y a une partie recentrage.
Mais, il est fait pour vous ?
Alors, il est fait, mais autant on se recentre parce que certaines activités on considérait pas stratégiques ou alors on n'était pas le meilleur actionnaire pour continuer à les développer. Mais l'innovation, on a parlé d'IA, on a parlé de sécurité, c'est des sujets critiques pour nous, c'est des vrais relais et c'est des sujets sur lesquels on est attendu par nos clients. Donc c'est certes le recentrage, mais on a encore beaucoup de choses à faire dans l'innovation et pour apporter toujours plus de services sur des sujets pour lesquels les clients attendent de notre part quelque chose.
Donc ça, c'est vraiment la priorité. Un mot quand même sur l'Afrique, parce que vous en avez parlé ici. On sait que Orange est très, très présent en Afrique. Pour vous, ça reste, c'est là où est le relais de croissance ou pas, pour votre groupe?
Alors, ce n'est pas le seul relais de croissance. Si on regarde purement le marché télécom, c'est vrai que le continent africain, il est tiré par une démographie qui fait qu'on a des taux de croissance qui sont double digit, comme on dit aux investisseurs, là où l'Europe est dans des taux de croissance bien plus faibles. Et donc, nous, l'Afrique, c'est une vraie spécificité. Ça fait partie de notre plan stratégique et donc on assume. Hein, et c'est de la croissance.
Et vous continuez parce que, par exemple, sur l'Éthiopie, là, je crois que vous avez arrêté. Il y a d'autres pays où vous êtes un peu en stand-by. Ça reste quand même une de vos priorités.
Ah, c'est absolument une priorité pour nous. On est présent dans 18 pays d'Afrique. En permanence, on regarde les opportunités d'investir dans des nouveaux pays. Ou alors, effectivement, il nous arrivait par le passé hein, de sortir de certains pays quand les conditions étaient plus réunies pour nous pour opérer. Mais aujourd'hui, on est très content de notre position en Afrique. Et effectivement, vous avez mentionné l'Éthiopie. On a regardé le dossier, mais les conditions n'étaient pas réunies pour investir. Et donc, on ne l'a pas fait.
Et donc, vous l'avez refermé. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Christelle Edman, donc directrice générale d'Orange, qui était notre invitée. Puis bon Jeux Olympiques alors.
Merci.
Merci.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h37, c'est reparti jusqu'à 20h. Good evening business en direct, bien sûr. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous.
Audrey Tcherkov, bien sûr, avec nous jusqu'à 20h. Les experts sont là. Frédéric Simotel, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Frédéric. Pascal Delimat avec nous. Pascal, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Chef
bonsoir,
économiste bonsoir. Chez CG Business Consulting et Léonidas Kalogiropoulos. Léonidas, bonsoir.
Bonsoir.
PDG de Médiation et Arguments et fondateur des Entrepreneurs pour la République, dépêche de l'AFP qui nous dit que le Front Populaire met en garde solennellement Emmanuel Macron contre le maintien prolongé de Gabriel Attal à Matignon. Léonidas fait une tête. On parlera de tout ça dans un instant, une tête reposée de la situation française.
Non, oui. On est obligé de réagir à chaque vocifération.
On en parle parce que l'actualité est mouvante, elle est importante. On parlera de tout ça dans un instant. Bon, on va prendre un petit peu de hauteur en attendant.
Prenons de la hauteur.
Oui. Parce que c'est toute l'Europe spatiale qui brûle un cierge. Si tout va bien, dans un peu plus de 2 heures maintenant, Ariane 6 va décoller de Kourou en Guyane. Pour effectuer son tout premier vol. Ça fait 1 an que l'Europe est privée d'accès autonome à l'espace. C'est beaucoup. Hein,
alors, c'est beaucoup, surtout que l'accès à l'espace est de plus en plus, évidemment, une question de souveraineté et que, eh ben, à ce jeu-là, il nous semble que les Américains et les Chinois, eux, accélèrent nettement. Frédéric Simotel.
Les Américains, les Chinois, les Indiens, les Japonais, beaucoup de monde accélère. Et c'est vrai que nous, il nous manquait ce lanceur. Alors, Ariane 6 était prévu depuis un moment. Alors, il faut savoir qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Hein. Je prends juste l'exemple de SpaceX. C'est plus de 200 lancements sur l'année. Nous, Ariane 6, on va en lancer beaucoup moins. Hein. Ce sera,
alors, combien ?
On sera dans 10-12 lancements, mais sur plusieurs mois. Ouais. Après, c'est pas les mêmes, on n'emporte pas les mêmes charges. En plus, Ariane 6, c'est une nouvelle génération de fusées. Alors, elle n'est pas comme, c'est-à-dire que les lanceurs qui permettent à la fusée de partir ne reviennent pas sur Terre comme sur SpaceX. Hein. Nous, voilà, ils servent une fois. Par contre, cette fusée-là a une particularité technologique, c'est qu'elle peut déposer des satellites sur 2 orbites. Elle peut faire une orbite basse, elle va ouvrir, lâcher ses premiers satellites, les Starlink, les Kuiper, de, d'Amazon qui vont arriver, et puis poursuivre sa route et déposer d'autres satellites pour d'autres besoins. Donc nouvelle génération, beaucoup de technologies à l'intérieur, elle est plus légère, elle est plus économe en carburant, on travaille beaucoup sur les carburants aussi au sein de Arianespace. Elle est aussi elle va exister en deux versions hein, pour amener différentes sortes de satellites. Sur la partie techno, on peut dire bon, il y a pas mal évidemment de techno avancée à l'intérieur. Et puis derrière, bien évidemment, cette partie souveraineté, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Audrey venait de le dire, il y a les Chinois, il y a les Américains, il y a d'autres. Et là, il faut vraiment qu'on ait un lanceur européen. Là, on l'a parce que on va lancer des satellites militaires, on va lancer des satellites de télécom pour nos propres besoin. Donc ça, c'est déjà une première chose. Deuxième souveraineté, c'est avoir accès à la technologie. Hein. C'est une technologie d'avenir. Hein. La Space Tech, le New Space, l'espace d'une façon générale. Emmanuel Macron l'avait mis dans les priorités stratégiques, technologiques. Donc là aussi, il faut y aller. Et puis, continuer à travailler pour réduire les coûts, pour être dans la compétition internationale. Donc c'est un événement important. Alors on attend, c'est une fenêtre de tir. On a une fenêtre de tir entre 20h et 23h. C'est lié à la météo. Est-ce qu'il peut y avoir un petit pépin technique? Bon, on espère pas, mais a priori, voilà, le lancement est prévu ce soir.
Précision, pardon, juste une chose, si ça marche pas ce soir,
c'est extraordinaire,
faut pas se pendre au lustre, parce
qu'il y en a un autre.
Ariane 5 en 96, le premier vol, ça marche pas, et ensuite, c'est deux échecs en 117.
Pour les plus anciens, c'était une moquerie hein, à l'époque, Ariane ne décollait pas, enfin, c'était un petit jeu, enfin, tout le monde plaisantait autour de ça.
Bon, deux échecs en 117 tirs, voilà.
Ouais. Il faut quand même le rappeler, voilà.
Mais j'ai trouvé ça assez extraordinaire qu'on a un plan B si jamais il y a un incident. Il y en a un autre qui est en réserve et on peut le tirer dans la semaine en ajustant et en tirant les leçons de ce qui aura bugué aujourd'hui. Donc je trouve que c'est assez extraordinaire en termes de
technologie.
C'est vrai. Et je trouve presque d'ailleurs que c'est un contraste fascinant entre le désordre qu'il y a à la tête de l'État et l'exécution. L'exécution, mais attendez, c'est ça la vraie vie.
Le parallèle est intéressant.
Elle est là. La France. Elle est en train de lancer des fusées pendant que l'on a des psychodrames qui se livrent.
La France de l'innovation.
Et qui pense être au centre du monde et au centre du pays.
Une France de l'innovation, en plus, je rappelle, hein, on se met beaucoup de contraintes technologiques hein, autour de cette fusée. On veut qu'elle soit économe, on veut qu'elle soit plus durable. Donc on travaille sur les matériaux, on travaille sur le carburant. Enfin vraiment, on se met davantage de contraintes que les Américains ou que les Chinois, hein, faut quand même le dire. On est vraiment à la pointe de cette technologie. Donc voilà, il faut soutenir... pour soutenir tout ça, et puis encore une fois, il y a cette histoire de souveraineté.
Oui, alors justement, donc cette histoire de souveraineté, il faut le rappeler parce que c'est important, depuis la fin brutale du partenariat avec la Russie, l'Europe ne disposait plus d'accès indépendant à l'espace.
Oui. Complètement
dingue.
On a envoyé des satellites via SpaceX. Hein, ils continuent à avoir cette collaboration internationale hein, avec SpaceX, alors plus avec les Russes, bien entendu. Mais là, voilà, il fallait quand même qu'on ait nos lancements. On a des satellites, je le disais, on a des satellites militaires, des satellites télécom, des satellites scientifiques. Ouais. On n'a pas envie que ce soit aux mains d'être lié à d'autres.
Pascal, oui, je crois que l'Europe de l'espace n'a jamais eu envie de dépendre des États-Unis sur le sujet.
Non, c'est le cas aussi dans d'autres domaines, hein, notamment. Dans le domaine de l'énergie. Aujourd'hui, on a un combat un peu tripartite avec l'autonomie énergétique, l'autonomie également dans le domaine de l'aérospatial, dans le domaine du militaire. Et évidemment, tous ces éléments-là sont interdépendants. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est... Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en Europe. On parle beaucoup également de retrouver une autonomie énergétique à travers le nucléaire. Mais il y a aussi, effectivement, l'espace européen, l'industrie spatiale européenne qui est absolument essentielle parce que les retombées économiques, d'abord, sont importantes. Des retombées géostratégiques en termes de leadership technologique, en termes de leadership pour le secteur des télécommunications. Mais les retombées sont colossales aussi en matière de partenariats de recherche-développement sur les plus récentes technologies, évidemment. Derrière tout cela, il y a des entreprises aussi qui travaillent pour le spatial. Et donc, il y a des milliers d'emplois. Il y a l'IA, les drones, tout ce que vous voulez derrière qui font partie. Puis il y a les contrats commerciaux qui vont arriver aussi. Donc,
oui, c'est ça, parce que les enjeux commerciaux sont colossaux.
Il y a quand même aussi une dimension... parler de souveraineté, mais un pays, un continent qui ne maîtrise pas l'accès à l'espace est aujourd'hui quelque part, j'allais presque dire en termes de symbolique, dans les rapports de force géostratégiques, dépassés. Et je pense que de ce point de vue-là, ce lancement, il a des enjeux aussi en termes de poids
d'influence.
Et d'influence, oui, absolument.
Pour conclure, Frédéric, on va vous libérer. Mais vous dites qu'on n'a pas encore perdu le match face aux Américains, face à SpaceX et consorts, finalement, avec Ariane 6. Parce que c'est source d'espoir,
Chacun est sur son marché. Alors, SpaceX, oui. Voilà.
Chacun est sur son marché, voilà, c'est ça. Ouais.
Alors, évidemment, oui, il y a une compétition internationale, mais voilà, nous, on a quand même. Il faut voir Ariane 6, même si le lanceur ne revient pas, même si certains critiquent le fait qu'il ne revienne pas comme les lanceurs de SpaceX, on a une avance, on a une grosse avancée technologique.
Et là, on est sur un saut technologique par rapport à Ariane 5, véritablement.
Ah oui, en matériaux, en carburant, en technologie.
Oui, en termes de consommation.
Et en termes de prix.
Oui, avec des coûts de production qui sont largement réduits.
Oui, en termes de prix également. Et puis, encore une fois, SpaceX bénéficie aussi de tous les contrats avec la NASA et tout ça. Et
voilà.
C'est là aussi où il faut.
C'est ce que j'allais vous demander.
Réussir à fermer un peu, à cloisonner un peu tout ça, parce que là aussi, on se fait un peu avoir de temps en temps, avoir des commandes européennes qui partent. Alors, quand ils peuvent pas faire autrement, bon, ils passent par SpaceX ou d'autres, mais là.
Oui, parce que enfin, est-ce qu'on peut dire que la commande publique aux États-Unis fait que SpaceX devient l'acteur incontournable, évidemment, américain, mais aussi international, et que forcément, la commande publique européenne, elle a quand même du mal à se mettre en place.
SpaceX est sauvé par la NASA. Hein. SpaceX, ouais. il a lancé ça. Alors, il y a tout le talent, hein, évidemment, d'Elon Musk, de mettre en route toutes ses ingénieurs, ses usines et tout ça. Mais s'il n'y avait pas eu la NASA, il a été à deux doigts d'arrêter l'aventure. Et puis la NASA a remis au pot. Les problèmes de la NASA, on a vu les échecs de Boeing.
Oui,
voilà, donc les États-Unis voulaient continuer à avoir un accès à l'espace. Et là, il s'est avéré qu'Elon Musk était là avec SpaceX. Donc ça a convenu. Ouais. Et puis derrière, c'était une réussite technologique aussi. Il faut bien en parler.
Il faut bien voir aussi les conséquences que ça peut avoir en termes purement économiques. C'est-à-dire que mettre en place des satellites sur orbite, c'est aussi observer les conflits potentiels, c'est aussi observer les flux maritimes, la densité de population, l'agriculture, la faune, la flore. Il y a un tas de choses qui sont
interdépendantes. Et de l'espace, on peut guider des missiles. Hein.
Et donc, c'est un enjeu du futur absolument essentiel.
Et c'est ça qu'on oublie souvent de dire, c'est l'importance de toute la donnée que l'on récupère. Et là, il faut qu'on ait aussi à terre des structures pour exploiter cette donnée et qu'elle ne parte pas chez Google ou d'autres comme
ça. Là, elle va partir un peu chez Amazon, puisque en l'occurrence.
Et Jeff Bezos.
C'est en l'occurrence Amazon qui est le premier client important de Ariane 6.
Bien, si tout va bien, donc c'est 21h, c'est ça.
Entre 20h et.
Ouais, c'est pour vous ce soir, Tech & Co. On dirait que
ce sera dans Tech & Co.
Et ça a été calé pour ça.
Ils sont calés sur Tech & Co. Et on a un reporter, Jean-Baptiste Huet, qui est là-bas et qui nous fera.
Qui est donc à Kourou. En Guyane.
Ouais, bon.
On brûle un cierge. Merci Fred, à tout à l'heure, à partir des 20h, bien sûr. Exactement. Pour Tech & Co avec François Sorel, bien sûr. Bon, désolé, on va revenir sur les.
Et sur l'actu française. Ah, puisque pendant ce temps, donc, grande question, comment va-t-elle cette économie française? Donc là, on a l'INSEE qui vient de publier sa dernière note de conjoncture. Alors, ça nous dit globalement que jusqu'à l'annonce de la dissolution, ça allait pas trop mal, mais pour la suite, c'est un peu flou.
Bah oui, parce que l'INSEE nous dit, alors, avant la dissolution, qu'est-ce qu'on avait dans nos chiffres? On avait une croissance d'1,1%. Pour cette année 2024, c'est-à-dire aussi bien que l'an dernier. Mmh. On avait une inflation qui était partie pour redescendre à 2% en décembre et on avait un chômage qui était censé remonter mais un tout petit peu se stabiliser à 7,6%. Oui, mais ça, Pascal, c'était avant. Voilà. Et la question sans réponse, c'est qu'est-ce qui va rester de tout ça dans quelques mois, une fois qu'on aura eu peut-être des mois de paralysie.
Il y a des ajustements qui vont être faits, on verra. Il y a Moody's, l'instabilité politique, il peut y avoir une perspective négative, ça peut refaire tomber un peu le moral des investisseurs. Mais effectivement, 1,1% sur 2024, une relance de la consommation, une amélioration du pouvoir d'achat, les exportations qui ont l'air de repartir, en tout cas selon les prévisions de l'INSEE. Écoutez, tout va bien.
Voilà. Non, au 9 juin, tout allait bien, quoi.
Voilà, au 9 juin, tout allait bien, mais enfin, en tout cas, ce que dit l'INSEE n'a pas l'air, franchement, alarmiste. Maintenant, on attend un petit peu de voir aussi, parce que vous savez, tout ça évidemment est indépendant. C'est des données macroéconomiques, donc il y a des réalités aussi concrètes que vivent les Français qu'il faut tenir, dont il faut tenir compte. Hein. Évidemment, les inégalités, évidemment la précarité technologique, on essaie de résoudre hein, par les entreprises, par l'enrichissement des métiers, les slasheurs, la multi-activité, les jeunes, etc. Donc, bon, tout ça est un petit peu macro, mais au niveau microéconomique. Alors, il y a quand même des questions encore à se poser qu'on ne traite pas forcément.
Je me permets de tempérer un tout petit peu cet enthousiasme, Pascal, parce qu'il y a d'autres indicateurs qui nous disent que l'économie, elle se porte pas si bien que ça, qu'elle ne se portait pas si bien que ça avant la dissolution. Si on regarde, bon, je vous parle même pas du niveau record historique du déficit de l'État, qui sur les 5 premiers mois de l'année, 113 milliards d'euros, alors que Bercy nous annonçait la tendance inverse. Bon, ça c'est un premier point. Ensuite, on a une chute de la production industrielle de quasiment 2% sur un an, et le pompon, c'est la hausse du déficit commercial. On est à 86 milliards sur un an.
Et on va l'exploser.
Donc, c'est pas si rose que ça.
Non, Leonidas. C'est pas si rose que ça, mais les réformes qui sont en cours. Alors, j'ai pas envie d'ailleurs de dire que tout allait bien et qu'il fallait attendre. Les résultats sont pas aussi bons que ceux qu'on voudrait. Et je veux dire par là que, très objectivement, il faut quand même le dire, on s'attendait à ce qu'une politique pro-business, qui est celle qui a été quand même menée...
Et qui a coûté très cher,
et qui a coûté cher, et des résultats plus probants que cela.
On est d'accord.
Et on s'attendait...
Bruno Le Maire s'est quand même félicité de ces chiffres tout à l'heure. Sur...
Oui, mais
voilà, il se félicite de beaucoup.
Non, attendez, il peut se féliciter. Néanmoins, il y a quand même une nuance. C'est pas parce que les résultats ne sont pas aussi bons que ce ne sont pas des résultats qui sont quand même des performances. Surtout... je crains que ce soit aujourd'hui les meilleurs résultats d'une politique économique qui, si elle devait être remise en question demain matin par je ne sais quel apprenti sorcier, ferait s'écrouler la très fragile croissance que nous avons encore. Donc c'est enfin, la situation de la France, elle est plutôt bonne et très fragile. Donc, vouloir remettre en cause nos fondamentaux aujourd'hui, je pense que ce serait vraiment irresponsable. Par ailleurs, je dois dire que le point qui nous déçoit le plus, c'est que le taux d'emploi soit plus élevé qu'il l'a été depuis les 20 dernières années.
Oui, c'est
et
vrai.
Que ça ne ramène pas dans les caisses de l'État autant de recettes que nous l'espérions. Parce que qui dit travail dit effectivement cotisations sociales, taxes qui sont payées. Et globalement, la productivité que l'on a en France n'est pas suffisante. Et donc, on n'a pas les fruits de ce retournement positif, en tous les cas, de cette croissance qui reste très fragile. Alors aujourd'hui, je crois que c'est la consommation qui porte encore un peu notre croissance. Mais bien entendu, c'est extrêmement fragile.
Voilà, parce qu'il y a aussi un attentisme. Alors, on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, de la part des investisseurs étrangers qui attendent, en effet, de voir ce que le nouveau gouvernement va donner,
beaucoup comment il va être composé,
quelles vont être les décisions de fond. Mais les épargnants aussi sont dans une situation d'attentisme. Tout le monde attend, du plus petit portefeuille au plus gros portefeuille, de voir ce que les prochaines semaines vont donner. Est-ce qu'on peut dire que c'est un trimestre perdu pour la croissance française ?
J'espère pas. En tout cas, les épargnants, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, épargner, c'est la conséquence d'un travail, c'est la conséquence d'un parcours professionnel, c'est la conséquence d'un projet personnel et professionnel, et qu'on a entendu des choses absolument horribles sur la taxation future, potentielle de l'épargne par rapport à certains programmes. Et évidemment que ça, c'est vraiment
très inquiétant. Parce qu'on vous explique, s'agit pas de s'approprier l'épargne, c'est mieux flécher, mieux orienter l'épargne.
Voilà, oui, corriger le tir. Mieux flécher, mieux orienter, mais enfin, à la limite,
corriger le tir. Oui,
j'ai refait. On veut pas shipper l'épargne, on veut mieux orienter l'épargne.
Oui, c'est vrai que quand on écoute, on n'est pas totalement certain.
D'accord, pardon,
je
vous interromps
plus. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et puis surtout, ne pas oublier que l'épargne pour les banques, c'est aussi l'investissement, et qu'on a besoin d'investissement d'avenir, entre guillemets, sur les métiers du futur, sur la transition écologique, numérique, sur les innovations, et qu'il faut libérer des ressources, et que voilà. Donc, tout cela pour dire qu'en gros, ne pas trop se focaliser sur ce problème de l'épargne, parce que c'est vraiment un élément central, vraiment central de dynamisme économique.
Bon, en tout cas, vous y avez fait référence, Pascal, ça n'a pas traîné à peine ces élections passées. Vous avez vu que les agences de notation commencent déjà à nous mettre la pression. On a eu Standard & Poor's dès hier lundi.
Oui.
Et Moody's ce matin qui a mis en garde explicitement contre l'abrogation de la réforme des retraites, carrément.
Oui, et qui appelle aussi à ne pas dévier de la ligne qui était encore il y a quelques temps, de faire des économies. Mais ce qui inquiète globalement, c'est que ces agences de notation, elles n'avaient pas pour habitude de réagir autant aux faits politiques.
Oui, mais là, il y a quand même une concomitance calendaire.
Elles ont rendu leur notation il y a quelques semaines. C'est quand même très très court. C'était très tendant sur la base d'explications qui ont été données par le gouvernement qui était là il y a encore 15 jours. Enfin, qui est encore là d'ailleurs, même s'il est empêché d'agir, je crois, on peut le dire ainsi. Et dès lors, ce sont les fondamentaux sur lesquels ils ont rendu leur copie qui sont potentiellement remis en question. Donc ils ont, je trouve quand même qu'il y a une certaine forme d'honnêteté intellectuelle derrière ces annonces, de dire, voilà quelle était la notation par rapport à des fondamentaux, et dans les fondamentaux, il y avait la réforme de la retraite.
Enfin, la réformette de la retraite, parce que le CAF vient de nous annoncer que dès 2024, on replonge dans le rouge avec un trou de quasiment 6 milliards d'euros.
Il faut faire attention sur... je suis d'accord avec vous, mais la réformette de la retraite, c'est quand même mieux que pas de réforme du tout.
Oui, mais de toute façon, à partir du moment où on sait qu'il allait falloir repasser par une énième réforme, de toute façon, abroger celle-ci ou pas, on va être obligé de repasser par quelque chose de différent.
Oui, mais je ne pense pas que l'on puisse... je pense qu'on ne se rend pas compte du risque dans lequel on est. Je crois qu'on n'a pas pris la mesure de ce que représente le bord de la falaise où nous sommes placés aujourd'hui. Je crois qu'il faudrait demander, et peut-être que ça serait intéressant de le faire rapidement, à ce que les Grecs racontent ce que ça a été de passer 10 ans sous la coupe du FMI.
On s'en souvient, on l'a vu.
Eh bien, ce sont des crises gravissimes et ça marque les familles, ça marque le quotidien des gens. C'est autre chose que d'avoir 5% d'inflation à la pompe.
Et je pense on est bien d'accord, on est pas on est quand lucide. Même loin du cas grec, en tout cas pour le moment.
Je ne crois pas qu'on soit loin du cas grec.
Ah non, Léonidas.
Non, je ne crois pas qu'on soit loin.
On n'est pas à deux doigts de voir les agents du FMI débarquer dans leurs petits costumes quand même. Là.
D'abord, on a.
On n'a pas des comptes qui sont trafiqués, a priori. Et deux, on a des
agents qui ne sont pas forcément ceux du FMI. Mais en tous les cas, je crois que si on a notre dette qui commence à déraper, les taux d'intérêt qui commencent à gonfler, je pense que l'on est dans une situation de crise grave. Enfin, rappelez-vous quand même, on est à 113% de déficit.
Déficit par rapport au PIB. Enfin, PIB. Si on se compare aux États-Unis.
Et on a des taux d'intérêt qui restent encore aujourd'hui, j'allais dire, très avantageux, parce qu'on nous fait encore confiance. Que l'on perde confiance en la France, je pense que nous sommes en risque
je
majeur.
Je pense que tous les ténors, quels que soient les partis politiques, ont l'âge et l'expérience et le recul pour se rappeler de ce qu'ont été effectivement ces 10 années passées par la Grèce avec les agents.
C'est marrant ce que vous dites, parce que je ne trouve pas à entendre un certain nombre d'entre eux.
Il y a des images, des discours,
enfin, je ne pense pas à entendre certains d'entre eux qu'ils aient ça à l'esprit actuellement.
Électoralement, on ne pouvait pas dire ça, mais je pense que personne ne prend le risque de faire en sorte qu'on se retrouve dans cette situation, véritablement, a priori, je pense. Avec les agents du FMI qui viennent en France, ça paraît assez peu concevable.
Bon, allez, on termine sur
cette note positive. Le Royaume-Uni, peut-être, est passé pas loin, effectivement. Il y a environ un an et demi de voir les...
Et ça vous a pas échappé que leur endettement n'était pas au niveau du nôtre.
Oui, non, absolument. C'est
vrai. Bien, Pascal, vous réagirez tout à l'heure, parce qu'on va reparler de tout ça, évidemment. On se retrouve, messieurs, avec vous, avec Pascal, avec Léonidas, dans un instant, 19h15. Les experts reviennent.
Restez avec nous, on est ensemble en direct jusqu'à 20h.
Good Evening Business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.